Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
J'aimerais aujourd'hui vous parler d'une équipe de scientifiques de l'Observatoire de l'Université de Harvard au tournant du XXe siècle qui a analysé près d'un demi-million de photographies d'étoiles. Ces astronomes ont découvert des types d'étoiles, élaboré le premier catalogue d'étoiles modernes et ont même fini par découvrir de quoi les étoiles sont faites. Et ces astronomes étaient toutes des femmes. En 1850, des scientifiques bricoleurs ont fixé un appareil photo sur un télescope et ont pris les premières photographies d'une étoile. Le daguerréotype résultant était flou et pâle, mais l'idée était lumineuse et claire. On pouvait exploiter la photographie pour enregistrer le ciel nocturne. Peu après, les appareils photographiques ont été conçus spécialement pour les télescopes. Et les télescopes ont été conçus en fonction des appareils photographiques. Des astronomes du monde entier ont produit des négatifs sur plaques de verre. Empaquetés dans des malles, chargés sur des bateaux à vapeur, expédiés à dos de mulet par des sentiers montagneux, ils sont tous arrivés en grand nombre. L'une de leurs principales destinations, c'était l'observatoire de l'université Harvard, où l'astronome Edward Pickering tentait de cartographier et de mesurer chaque étoile. L'université d'Harvard allait finir par abriter un demi-million de ces fragiles plaques de verre, chacune de la grandeur d'une feuille de papier, ponctuée de minuscules points et taches gris et noirs des étoiles. Et bientôt, les plaques s'empilaient plus vite que Pickering et ses étudiants ne pouvaient les analyser. Il fallait calculer la position, évaluer la luminosité, analyser le spectre de chaque étoile. De plus, il fallait suivre chaque étoile dans le temps, afin de voir si elle se déplaçait par rapport aux autres ou si la luminosité variait. Une plaque pouvait contenir des images de dizaines ou de centaines d'étoiles, présentant des minuscules différences entre elles. Ça exigeait un travail aussi minutieux et expert que de la dentellerie. Les étudiants de Pickering, à qui on avait promis de regarder dans des télescopes et non à travers des loupes, détestaient ce travail. Selon la légende, Pickering perdit patience et leur dit que sa femme de ménage écossaise pourrait faire mieux qu'eux. Et donc, il l'a embauchée. Wilhelmina Fleming, immigrante écossaise et femme de ménage de Pickering, est donc devenue la première d'une quarantaine de femmes employées au titre de calculatrice. Et comme elle travaillait à l'observatoire de l'université Harvard, on les appelle parfois les calculatrices de Harvard. Alors pourquoi tant de femmes ? Il y a plusieurs raisons. La fondatrice du projet de catalogage était une femme, Mary Draper, une astronome amatrice qui avait commencé à monter un catalogue photographique des étoiles avec son mari Henry et qui voulait le compléter après la mort de ce dernier. Cette tâche peu prestigieuse, qui exigeait beaucoup de patience, était réputée convenir à des femmes. Regarder les images d'étoiles au lieu des étoiles elles-mêmes était un travail respectable qui se faisait à l'intérieur et de jour. Mary Draper en savait quelque chose. Lors d'une expédition d'observation d'éclipses solaires, elle était restée à l'intérieur de la tente pour noter le temps. Et puis, il y avait une autre raison non négligeable. Embaucher des femmes coûtait beaucoup moins cher. Alors que l'astronomie entrait dans sa première ère de science centrée sur des données, il fallait beaucoup de monde pour former des groupes de calcul humains. L'embauche des femmes rendait les projets tout de suite plus abordables d'un point de vue financier. Revenons donc à la femme de ménage écossaise de Pickering. Wilhelmina Fleming est née en Écosse en 1857. C'est une enfant brillante et prometteuse, mais peu après s'être mariée et avoir émigré aux États-Unis, elle a été abandonnée par son mari. En Écosse, elle aurait été enseignante. Mais aux États-Unis, elle se retrouve enceinte et désespérée. Elle a donc accepté l'emploi qu'elle pouvait trouver en devenant femme de ménage pour Edward Pickering, le directeur de l'Observatoire d'Harvard. C'est à ce moment que Pickering l'embauche pour devenir l'agente d'administration de l'observatoire où elle devient responsable d'un groupe de plus en plus nombreux de femmes, constituées de conservatrices des plaques photographiques à partir desquelles les calculatrices constituaient patiemment un registre des étoiles. Mais Wilhelmina Fleming est bien plus qu'une secrétaire technique, elle a été la première experte en spectre stellaire. Peu avant sa mort, Henry Draper avait mis au point une méthode consistant à ajouter un prisme au système formé par le télescope et l'appareil photo pour disperser la lumière, de telle sorte que l'image de chaque étoile soit une tache plutôt qu'un point. Cette lumière dispersée donnait l'accès à une information nouvelle. Chaque tache contenait des raies de lumière qui étaient absorbées par les atomes des étoiles. La science ne comprenait pas encore totalement la signification de ces raies, ça allait venir avec la mécanique quantique, mais à force d'observer ces spectres, Wilhelmina a vu l'émergence de modèles. Elle a donc été la première à nommer ces modèles et à classer les étoiles selon ces modèles. Ces travaux ont donné lieu au premier système qu'on appelle Pickering-Fleming, et plus tard à la publication du premier volume du catalogue Henry Draper, dans lequel plus de 10 000 étoiles étaient répertoriées selon leur spectre. Ce spectre disperse la lumière d'une étoile selon les couleurs. Les raies où la lumière était absorbée apparaissaient en blanc dans cette image en négatif. Seul le nom Pickering figurait sur la couverture du catalogue de Draper, mais dans l'introduction, il mentionnait le travail de mesure et de classification de tous les spectres, ainsi que la préparation du catalogue pour publication de Wilhelmina Fleming, ce qui n'était quand même pas négligeable dans une page de remerciement, surtout à cette époque-là. Wilhelmina a travaillé pendant des décennies à l'observatoire de Harvard. Elle a catalogué des dizaines de milliers d'étoiles. Elle a découvert les naines blanches, la nébuleuse à tête de cheval. Elle a été la première américaine élue à la Société royale d'astronomie du Royaume-Uni. Elle est décédée en 1911. L'épitaphe sur sa pierre tombale se résume à un seul mot, astronome. Et puis, il y a aussi Annie Jump Cannon. Elle aussi, elle a fait évoluer la classification des étoiles. Elle a grandi parmi les étoiles car sa mère lui a enseigné les constellations. Et ensemble, elles ont construit un petit observatoire dans leur grenier. Sa mère a aussi veillé à ce que Annie aille à l'université, où elle a étudié la physique. Elle a même été major de sa promotion. Au cours de cette période, elle a presque totalement perdu l'ouïe. Elle a fini par se joindre aux calculatrices de Harvard en 1896. Elle s'est bien rapidement révélée brillante pour ce travail. Elle pouvait classifier des étoiles pratiquement au premier coup d'œil et se souvenait de quelle plaque, parmi des dizaines de milliers, contenait quel spectre. Au bout du compte, elle a classifié plus de 350 000 étoiles, plus que toute autre personne ne l'a jamais fait. Elle a aussi beaucoup fait progresser le projet de classification lancé par Wilhelmina Fleming. L'un des éléments les plus remarquables et importants du spectre d'une étoile, c'est la raie d'absorption H1. Ça, c'est la raie foncée du spectre où les protons ayant une énergie donnée sont absorbés par les atomes d'hydrogène. Wilhelmina Fleming avait classifié les étoiles selon l'intensité et la netteté de leur raie d'hydrogène. Elle utilisait pour ça les lettres de l'alphabet. Les raies de type A étaient les plus intenses et les plus nettes. Une autre calculatrice de Harvard, Antonia Mori, avait mis au point un système différent, fondé entre autres sur la largeur des raies. Elle utilisait les chiffres romains. Annie Jump Cannon avait pris ces deux systèmes, les avait combinés avec ses propres observations et avait édité le tout et mis au point un système de classification des étoiles encore en usage aujourd'hui. On ne pouvait pas le savoir à l'époque. Mais il se trouve que la classification ordonne les étoiles par ordre de température de leur surface. Un siècle plus tard, les astronomes utilisent encore cette classification. Les étudiants en astronomie voient ce système d'Annie Jump Cannon dans leur tout premier cours. Oui, c'est fondamental à ce point. Et à l'instar du tableau périodique des éléments, c'est une clé puissante qui révèle des idées bien plus profondes sur la vie et la mort des étoiles, et même sur les raisons pour lesquelles elles brillent. Une autre calculatrice de Harvard est plus connue, c'est Henrietta Swan Leavitt. Henrietta a travaillé sur les distances aux étoiles. Une étoile donnée est-elle brillante et lointaine ou plus faible et plus proche de nous? Avant les travaux d'Henrietta, il n'y avait aucun moyen de le savoir. Et après ces travaux, les astronomes pouvaient chercher un certain type d'étoile variable et calculer exactement sa distance en mesurant sa vitesse de clignotement, dans une relation appelée la loi de Leavitt. En utilisant la loi de Leavitt, les astronomes ont d'abord découvert que notre système solaire n'était pas vraiment le centre de notre galaxie, et que notre galaxie n'était qu'une parmi de nombreuses galaxies. Finalement, que l'univers dans son ensemble était en expansion. Henrietta Swan Leavitt était pieuse, sourde et brillante. Elle a littéralement mesuré la taille de l'univers. Elle est née en 1868. Elle était la fille d'un pasteur. Elle a fréquenté le collège des femmes, rattaché à l'université de Harvard. Elle y a utilisé les classiques, la philosophie, les beaux-arts, les mathématiques et l'astronomie. Peu après avoir obtenu son diplôme, elle a contracté, comme Annie Jump Cannon, une maladie qui lui a fait perdre l'ouïe. Henrietta Swan Leavitt avait travaillé en tant qu'étudiante à l'observatoire de l'université d'Harvard. Mais pour y retourner en tant que diplômée, elle devait travailler sans salaire. Comme elle avait accès aux ressources financières de sa famille, c'était jugé inconvenant de la payer. Elle a fini par obtenir un salaire de 30 cents de l'heure, environ 9 dollars de l'heure d'aujourd'hui. Elle s'est néanmoins jointe à l'observatoire et elle a commencé en 1903 à rechercher et à étudier les étoiles variables, c'est-à-dire les étoiles dont la luminosité varie dans le temps. En particulier, elle a étudié les étoiles variables dites céphéides, dont la luminosité varie de deux magnitudes avec la régularité d'une horloge. Les trouver en comparant les fragiles plaques de verre exposées lors des nuits différentes à la recherche de minuscules changements était long et fastidieux. Malgré tout, Henrietta Swan Leavitt a découvert plus de 2400 nouvelles céphéides. En 1912, elle a publié sa découverte emblématique. Une étude des 25 céphéides du petit nuage de Magellan. Comme ces étoiles faisaient partie de la même galaxie, Henrietta Swan-Leavitt savait qu'elles étaient toutes à peu près à la même distance de nous. Et que, par conséquent, celles qui semblaient les plus brillantes avaient réellement une luminosité plus grande, et que celles qui semblaient plus pâles avaient réellement une luminosité plus faible. En comparant la période et la luminosité de ces céphéides, elle a découvert une relation très simple. Plus une étoile est brillante, plus sa période est longue. En mesurant la période d'une céphéide, on peut donc calculer exactement sa luminosité, et donc sa distance par rapport à nous. Les astronomes de l'époque avaient déjà une bonne compréhension de la relation entre la luminosité apparente et la distance. Avant les travaux de Leavitt, les astronomes ne pouvaient mesurer la distance que des étoiles relativement proches en utilisant la parallaxe. La loi de Leavitt leur a donné un moyen de revoir la structure de l'univers. Ils ont constaté que notre Soleil n'était pas au centre de la galaxie, que notre galaxie n'était pas au centre de l'univers. Ils ont d'abord mesuré notre galaxie, puis la distance jusqu'à la galaxie la plus proche, prouvant qu'Andromède, que l'on croyait être un nuage au sein de notre propre galaxie, était en fait une galaxie spirale géante de 1000 milliards de masses solaires, située à 2 millions d'années-lumière de nous. Edwin Hubble, qui a mesuré la distance jusqu'à la galaxie d'Andromède, était d'avis que Leavitt méritait un prix Nobel. Et il n'était pas le seul. Elle a effectivement été mise en nomination. À la suite de quoi, ceux qui avaient proposé son nom se sont rendus compte que la femme que l'on avait négligée pendant toute sa vie était morte du cancer 3 ans auparavant, à l'âge de 53 ans. Elle n'a donc jamais reçu le prix Nobel car on ne peut pas le recevoir à titre posthume. Il y a bien sûr d'autres femmes exceptionnelles parmi les calculatrices de Harvard, mais je manque de temps pour vous les raconter toutes. On peut quand même dire qu'elles partageaient toutes un certain nombre de qualités. Elles faisaient preuve d'une précision exceptionnelle dans leurs mesures et dans leurs analyses. Elles ont fourni un travail patient et méticuleux qui a permis de faire émerger des classifications encore en cours aujourd'hui. Elles ont aussi fait preuve de persévérance, car malgré les préjugés de l'époque, ces femmes ont persisté dans leur travail, souvent sans reconnaissance immédiate. Leur dévouement a non seulement enrichi l'astronomie, mais a ouvert la voie à de futures générations de femmes scientifiques. Le travail des calculatrices de Harvard est un exemple frappant de la collaboration scientifique. En effet, en travaillant ensemble, elles ont construit une base de données astronomiques sans précédent, démontrant que les efforts collectifs peuvent conduire à des découvertes majeures.